Salut à tous et bienvenue sur Archéociné. Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé avec Blood aussi autour du micro. Comment ça va, Blood?
Salut tout le monde, eh bien très bien.
Et on va se retrouver pour l'épisode numéro 24 déjà, et oui. Et pour faire toujours comme d'habitude, hein, on va commencer par l'intro du film.
Depuis plus d'un an, des bruits alarmants circulaient sous le manteau parmi les hauts dirigeants du monde occidental. L'URSS, disait-on, préparait quelque chose que l'on supposait être l'arme nucléaire suprême. Le contre-espionnage avait réussi à repérer l'emplacement où s'élaborait le projet ultra-secret des Russes. Une terre arctique, perpétuellement enveloppée de brouillard, au pied des montagnes des îles Okhotsk. Ce qui se construisait dans ce lieu reculé et désertique, personne ne le savait.
Ouais, vous l'avez peut-être reconnu, mais il est difficile comme ça à reconnaître pour ceux qui connaissent pas le film. C'est Docteur Folamour. Le titre à rallonge complet, c'est Docteur Folamour ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Donc c'est un film, c'est une comédie militaire hein, satirique sortie en 64, réalisée par Stanley Kubrick. Et en fait, à la base, c'est un thriller écrit par Peter George qui s'appelle 120 minutes pour sauver le monde. Peter George, hein, qui l'a sorti ce bouquin sous le pseudo de Peter Bryant. Voilà, bah vas-y, Blood, on va attaquer dans le vif du sujet tout de suite maintenant avec les petites équipes techniques qu'il y a autour.
Oui, on a expliqué un petit peu que ça se passe pendant la guerre froide, non? Ou on le dit qu'après, ça, comme on...
Ouais, vas-y, entame.
Ouais. Bon, ça se passe pendant la guerre froide. Il y a un général, Jack Ripper, qui est complètement dingue d'un coup, et il décide donc d'attaquer carrément avec le truc nucléaire, quoi. Il envoie les B-52 pour attaquer l'URSS. Comme ça se passe en pleine guerre froide. Et le film, en plus, il est fait en pleine guerre, pendant la guerre froide, quoi. C'est-à-dire que c'est fait spécial, quoi, pour l'époque du film. Donc, le scénario est donc de Stanley Kubrick, Terry Suzern et Peter George. Et il y a la participation, donc, un peu de Peter Sellers et de James Harris. Donc, la musique, elle est de Laurie Johnson. Donc, la photographie, il y a Gilbert Taylor. Le film donc fait 95 minutes. Donc, c'est une comédie guerre quoi, ça, vu que ça se passe pendant la guerre froide. Donc la date de sortie donc aux États-Unis, il est sorti le 29 janvier 64. On reviendra un peu plus tard pour la date de sortie. En France le 10 avril 64. Et puis peut-être maintenant un petit extrait.
Ouais, mais avant, une petite précision, à souligner que ce film est entièrement réalisé en noir et blanc, et 35 mm, 1,66, voilà, donc c'est vrai que pour l'époque, ça fait un petit contraste avec les films couleurs, quoi. Ouais, et comme tu dis, on va passer un petit extrait.
Ici le colonel Mandrek.
Ici le général Ripper. Vous reconnaissez ma voix? Oui, pourquoi me demandez-vous ça?
Pourquoi croyez-vous que je vous le demande?
Mais mon général, je ne sais pas, nous venons de nous téléphoner il y a juste un instant, n'est-ce pas?
Est-ce que je vous demanderais si vous reconnaissez ma voix, si ce n'était pas bigrement important, Mandrake?
Non, c'est évident.
Bon, alors ouvrez vos oreilles.
Le groupe a-t-il confirmé qu'il a atteint son point de Felsef?
Oui, mon général, la confirmation vient d'arriver à la minute.
Parfait. Alors écoutez bien ce que je vous dis. La base est mise sur le pied d'alerte rouge. Je vous ferai communiquer à toutes les sections immédiatement.
Alerte rouge, oui, excellente idée, ça réveillera un peu le personnel.
J'ai bien peur que ce ne soit pas un exercice, colonel.
Ce n'est pas un exercice?
Je ne devrais pas vous le dire, Mandrake, mais vous êtes un bon officier, vous avez le droit de savoir. Je crois que nous sommes en pleine guerre chaude.
Ah, zut. Et les Russes y sont impliqués?
On n'a rien dit de plus.
J'ai été alerté par le téléphone rouge. On m'a donné l'ordre de mettre la base au secret et de couper toute relation extérieure. Alors, je vous donne l'ordre de transmettre le plan R. R comme Robert, au groupe.
Le plan R comme Robert.
On en est à ce point-là?
Ça a l'air très mal engagé.
Vraiment? Le plan
R comme Robert.
Autre chose, et c'est peut-être le plus important. Je veux que tous les postes à transistors soient immédiatement confisqués et mis sous clé.
Bien, mon général.
Ils pourraient être utilisés pour donner des indications aux saboteurs.
Ouais, on voit que il est un peu... je sais pas ce qu'il prend, mais... Le général, il est un peu allumé, quoi.
Il est pas net.
Ouais, ouais, déjà, après, il veut réquisitionner tous les postes à transistors. Bon, après, ça fait un petit clin d'œil à certains événements historiques où on fallait prendre les bouquins. Mais, moi, c'est, il est un peu, il est un peu spécial. Allez, on poursuit. Donc, bah, Stanley Kubrick, hein. Tout le monde, enfin, un grand réalisateur, hein, mais aussi photographe, scénariste, producteur, non, américain, hein, il est né en 28, il est décédé en 99, et bon, après, il a fait ses débuts dans la photographie, c'est un autodidacte, et puis il sera également son propre directeur de photographie, producteur, scénariste, monteur. Voilà, il a fait beaucoup de longs métrages, hein. C'est un des cinéastes majeurs du 20e siècle, le siècle dernier donc. Et bon, après dans ces grands films qu'on peut retrouver, il a fait entre autres les Sentiers de la Gloire, pardon, Spartacus, Lolita, 2001, l'Odyssée de l'espace, on avait fait un épisode sur le film, Orange Mécanique, Shining, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut, ouais, pas mal de bons films. Voilà pour Stanley Kubrick, et après, on a aussi Blaud.
Oui, Laurie Johnson, donc, qui a composé la musique du film, bah, c'est la même personne donc, qui a fait la musique pour Chapeau Mono et Bottes de Cuir, les séries. Donc aussi bien quand c'est dans les années 60 qu'après dans les années 70.
Ouais. Au niveau distrib, bon, malgré qu'après au niveau des acteurs, on retrouve toujours les mêmes dans le film, il n'y en a pas des masses non plus, mais on a Peter Sellers qui nous fait trois rôles, hein. Il nous fait le colonel Lionel Mandrake, il nous fait le président des États-Unis Merkin Muffet. Et il nous fait aussi le docteur Folamour, un ex-docteur nazi, docteur Strangelove en VO. On a aussi George Scott, qui joue le général Buck Thorgrimson. On a aussi Sterling Hayden, qui joue le général Jack D. Ripper. On a Keenan Wynne, qui joue le colonel Bat Guano. Et Slim Pickens qui joue le commandant TJ King Kong. Voilà, après, bon, bah, après le reste, c'est des seconds rôles. Bah, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Peter Sellers, Blaud?
Alors, donc, il est né Richard Horry Sellers. Donc, il est né le 8 septembre 25. Donc, et il est mort le 24 juillet 80 à Londres. Voilà, c'est un acteur britannique, donc.
Très très précis, donc, ce Blaud.
Comment?
Très très précis, ce Blaud.
Ah, pardon. Pardon si je suis trop précis. Et donc, il était souvent connu pour être jouer plusieurs rôles quoi, dans un film. D'ailleurs, là, il fait trois rôles. Bref. Et donc, là, il interprète à lui seul le président des États-Unis, comme tu as dit, le flicier anglais Mandrake et le docteur Follamour. Et il aurait même dû jouer un quatrième personnage donc dans le film. Il aurait dû faire King Kong, celui qui pilote le B-52. Mais selon Kubrick, il s'agissait de quatre rôles nécessitant un grand talent comique que seul détenait, selon lui, Peter Sellers. Et donc c'est probablement aussi un hommage à Noblesse Oblige. D'ailleurs, Noblesse Oblige, c'est avec Alec Guinness. De Robert Hamer, où Alec Guinness donc, interprète tous les personnages d'une même famille. C'est une histoire d'héritage.
Ouais.
Et donc, le rôle du général donc, d'aviation au cerveau dérangé, donc, il attribue son appui sexuel à un complot soviétique et envoie son escadrille de B-52 atomisée à la Russie. Donc, ce rôle est tenu par Sterling Eden, ce qui est plutôt un contre-emploi, car Eden, ayant dans sa longue carrière interprété majoritairement des personnages positifs, notamment dans Johnny Guitar, et le nom du personnage est un jeu de mots transparent, Jack the Ripper, ça fait Jack the Ripper, donc autrement dit Jack l'Éventreur, le fameux tueur psychopathe qui sévissait à Londres.
Ouais,
et là, on parlait plus de Peter Sellers, donc on parlait de celui qui pète les plombs.
On a aussi George Campbell Scott, qui lui est un acteur, réalisateur, producteur américain. Il est né en 27, il est décédé en 99. Et lui, il est surtout connu pour avoir joué le général George Patton, dans le même film du même nom, hein, Patton, qui lui a valu un Oscar d'ailleurs de mémoire. On a Kenan Wynne Blood.
Oui, alors lui, 27, donc il est né le 27 juillet 1916, il est mort en 86. On peut le voir dans Les Trois Mousquetaires en 48, donc il fait le rôle de Planchet. Il est dans Jerry souffre-douleur aussi, avec Jerry Lewis, et surtout on le voit dans La Grande Course autour du Monde, super film marrant de Blake Edwards. Et donc, il a été aussi le shérif dans Il était une fois dans l'Ouest. Et encore dans Le Flingueur, donc il y retrouve Charles Bronson.
Ok, on a aussi Sterling Eden, donc lui c'est un acteur américain. Né en 1916, il est décédé en 86. On peut le voir dans Le Parrain. Slim Pickens, son vrai nom, Louis Burton Lindley. Lui à la base c'était un artiste de rodéo et aussi acteur américain, donc il est né en 1919, décédé en 83. Il aura lui surtout interprété des rôles de cow-boy au cours de sa carrière, mais on se souvient de lui tout particulièrement pour le talent comique qu'il déploie donc dans le film du docteur Follamour et également dans Le Shérif est en prison, film de Mel Brooks.
Exact. Et on a aussi des petites apparitions de James Earl Jones, acteur américain, qui est le fils de l'acteur Robert Earl Jones. Donc il est plus connu pour son rôle de Thulma Doom dans Conan le Barbare. Et il a surtout fait la voix de Dark Vador. Ça, c'est son premier film, en fait.
Ouais, exact.
Et bien sûr, on le retrouve dans Un prince à New York, vu que c'est lui qui fait le roi, donc le père d'Eddie Murphy.
Bon, là, on le reconnaît, mais un peu moins bien, parce qu'il a toujours le casque, vu qu'il est dans l'avion. Mais allez, on va se faire un petit extrait.
Alors, général, qu'avez-vous à nous dire ?
Monsieur le Président, il y a maintenant 35 minutes environ, le général Jacques Ripper, qui est commandant en chef de la base aérienne de Bulberson, a donné un ordre au 34 B-52 de sa base, qui était en vol à ce moment, comme faisant partie de l'exercice spécial, appelé Opération Couffrant. il est apparu que l'ordre a été donné aux bombardiers de attaquer leurs objectifs en Russie. Les avions sont équipés d'armes nucléaires et chacun d'eux a un chargement faisant en moyenne 40 mégatonnes. La position des avions est indiquée sur cette carte de la Russie. Les triangles représentent les objectifs principaux et les carrés, les objectifs secondaires. L'information pénétrera dans la zone de couverture radar russe dans 25 minutes.
Général Turgidson, ce que vous dites me paraît vraiment incompréhensible. J'avais pourtant l'impression que j'étais la seule personne autorisée à donner l'ordre d'utiliser l'arme nucléaire.
C'est exact. Vous êtes la seule personne autorisée à le faire.
Eh oui, mais des fois, pas tout le temps.
Bon, d'ailleurs, je l'avais pas reconnu tout de suite, Peter Sellers, hein, dans le rôle du président.
Ouais, c'est vrai qu'il est bien, il est maquillé, il est, bah, il a une calvitie.
Surtout avec la coiffure.
Ah, c'est
la
une
coiffure surtout.
Bah, enfin, quand t'as une calvitie, c'est pas trop une coiffure, j'appellerais ça. t'as plus de cheveux sur le caillou, mais ouais, les lunettes, etc. Ouais, c'est. Et puis il est très, comment dire. Il est moins, il y a moins d'effets comiques que d'habitude, quoi. Et là, il est sérieux et tout. Voilà. Sinon, bah, au niveau du tournage, il y a des trucs aussi à dire, hein. La salle d'opération souterraine, bon, ça constitue une vision très personnelle de Kubrick pour le centre opérationnel d'urgence de la présidence, hein, puisque c'est, normalement, ça se situe sous la Maison Blanche, mais bon, je pense pas qu'il ait pu y aller. Donc, c'est une vision très perso. Et il y a un autre truc marrant aussi, c'est vers à peu près 1h18, quand le dernier B-52, donc il a été touché par une explosion, et on voit il fait du Razmot. Bon, faut savoir que cet avion-là, c'est un avion à moteur à réaction, avec les ailes en flèche, et qu'est-ce qu'on voit l'ombre projetée au sol, et ben c'est un B-29, hein, donc quadrimoteur avec les ailes droites, donc c'est pas l'ombre en fait du B-52, mais bon, alors est-ce que c'est voulu ou pas,
quand ou est-ce que c'est dans l'avion, tu sais,
ou est-ce que c'est
réaction, puis t'entends les hélices, hein.
Ou est-ce un faux raccord, va savoir. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre que bah initialement la scène finale devait être une scène de bataille de tarte à la crème, mais entre tous les occupants, hein. Et par contre, bah alors la scène a été tournée, hein, par Kubrick, mais elle fut remplacée par celle de l'Holocauste nucléaire. Tout à la fin du film, et accompagné de la chanson We'll Meet Again de la chanteuse anglaise Vera Lynn. Voilà. Bon, on pourra écouter cette chanson-là à la fin de l'épisode, puisque à chaque fois je mets les dernières minutes des extraits sonores du film. Voilà, après sa sortie du film Blood.
Ouais, le film normalement devait sortir le 22 novembre 63, mais bon, malheureusement, ce jour-là, c'est l'assassinat de Kennedy, et donc la production a dû repousser la sortie du film. Et donc, sinon, dans la version initiale, ouais, le commandant du B-52, donc joué par Slim Pickers, donc il déballe une trousse de survie censée permettre aux aviateurs abattus de se gagner les faveurs des femmes soviétiques, donc vanillon, parfumerie, dollars en or, colis fichés, préservatifs, ainsi qu'un revolver Colt. Il commente en déclarant, les gars, je dois dire qu'avec ça, un loustic pourrait se payer une bonne nuit de rigolade à Dallas. La réplique fut censurée donc par la production en doublant Las Vegas à la place de Dallas, où Kennedy venait d'être abattu. Donc c'est logique, parce que sinon ça aurait fait un c'est... C'est pas marrant, quoi. Et donc, à noter que le doublage français a retenu Dallas. Voilà. C'est toujours lisible sur les lèvres.
Ouais, c'est vrai que Dallas, Las Vegas, Ça se voit quand tu... Même eux, en VO, bon, c'était... Voilà, quoi. Le contexte de l'époque. Qu'est-ce qu'on a au... Bah oui, on a aussi George Scott qui interprète le général Buck. Thurgeson avait la réputation d'être un acteur très difficile à diriger. Mais Kubrick, lui, connaissait son point faible, car l'acteur avait la certitude, mais à tort, d'être un bon joueur d'échecs. Et comme le réalisateur, lui, par contre, c'était un super cador aux échecs, il avait fait installer un échiquier sur le plateau, et à chaque fois, il invitait donc Scott à faire une partie avec lui. Et en fait, comme Kubrick, il arrêtait pas de gagner, et ben comme ça, il a gagné son respect et il pouvait mieux le gérer sur le plateau.
Et ouais, bravo Stanley. Et donc, Docteur Folamour, donc le personnage titre, incarne le recyclage par les États-Unis et l'URSS des scientifiques allemands ayant œuvré et souvent adhéré au régime nazi. D'ailleurs, on voit bien à la fin, le personnage, il est complètement... déjà ouais. Comme il parle, puis c'est éthique. Avec en outrance comique, donc Kubrick rappelle que le phénomène est loin d'être une invention. Donc, le docteur est inspiré de Werner von Braun, ancien savant allemand à la solde des nazis. Donc, réplique du général Thurgeson, pour moi, c'est toujours un Fritz. Père des V2, ainsi qu'Edward Teller, ingénieur et inventeur de la bombe H, et du mathématicien et physicien John von Neumann, tous deux juifs hongrois ayant travaillé au projet Manhattan.
Ouais, donc c'est von Braun hein, qui est le père des V2.
Le premier von Braun, spécialiste des propulsions et tenu en vol des fusées, fait décoller des programmes de la NASA. Le second devint plus tard conseiller technique du président américain. Il possédait un fort accent hongrois et un tempérament va-t-en-guerre, décomplexé. Le troisième, John von Neumann, fut chargé de certains calculs au sein du projet Manhattan. Il fit partie du comité chargé de désigner les cibles des bombes et calcula l'altitude optimale d'explosion de ces dernières afin qu'elles fassent le maximum de dégâts. Il fut ensuite, avec Werner, l'un des fondateurs de l'informatique théorique, imaginant la structure des premiers ordinateurs. Le nom du docteur Folamour, donc Strangelove dans la version anglaise, est en réalité Merkundisch Liebe. J'espère que je le prononce bien, mais je ne suis pas sûr de bien l'avoir dit. Hein. Par deux fois, dans le film, le docteur Folamour s'adresse au président avec les mots « Mein Führer ». Le personnage du docteur Folamour n'apparaît pas dans le roman de Peter George.
Ouais, non, mais c'est vrai que le docteur Folamour, il est complètement barré. Bon, vous aurez noté que, et vous l'aurez tous entendu, hein, que Blaud lit son texte. C'est pour ça que des fois, il fait des petits accros. Et voilà.
J'ai fait des accros, Mein Führer, j'ai fait des accros.
Qu'est-ce qu'on a encore pour finir? On a le personnage du général Buck Thurgeson, possiblement d'après l'adjectif turgide, hein, parce que le début de la crise surprend. Il est dans les bras de sa secrétaire, hein, et maîtresse. Et ça, c'est inspiré de divers militaires américains bellicistes de l'époque de la guerre froide. Parmi lesquels se détache le général Curtis LeMay. Voilà. Et ce général-là, il a mené les bombardements stratégiques contre le Japon durant la Seconde Guerre mondiale, et il a proposé ensuite, froidement, de déverser des bombes atomiques sur la Corée du Nord, la Chine maoïste et même l'URSS au moment de la guerre de Corée. Mais bon, heureusement que ça n'a jamais été fait. Ça lui avait un peu monté à la tête, avis personnel. La bande son, qu'est-ce qu'on dit là-dessus, Blaud?
Tout au long du film, donc quand il y a les B-52, il y a le thème musical donc récurrent qui arrive. C'est un folklore traditionnel américain, When Johnny Comes Marching Home. Donc c'est décliné en plusieurs variations. Donc aux États-Unis, cette chanson montre la guerre sous l'angle positif, tandis que la chanson irlandaise sur laquelle elle a été fondée, ou Johnny I Hardly Knew Ya, ne raconte que le côté négatif de la guerre. Ce thème joue sur un double sens culturel. Et donc, cette chanson, donc, When Johnny Comes Marching Home, donc, c'est une chanson populaire américaine, donc ça date de la guerre de sécession. Ça, c'est sûr. Et donc, elle a été écrite par Patrick Gilmore en 1863. Et donc, elle a été publiée sous le pseudonyme de Louis Lambert. Et donc, on peut retrouver cette chanson, donc, si vous connaissez donc la chanson Civil War de Guns N' Roses, c'est ce que siffle au début de la chanson, donc Axel.
Ok. Et puis bah on a aussi la scène finale qui a pour fond sonore la chanson We'll Meet Again, donc on se retrouvera. Et bah cette chanson elle est liée à la bataille d'Angleterre hein, qui était une des favorites des aviateurs de la RAF. Et bah en fait bah les paroles ça évoque un lieu indéterminé ensoleillé avec un beau ciel bleu où on se retrouvera et voilà c'est pour ça que ça parle à pas mal de personnes qui étaient de la famille d'aviateurs.
Qui sait où, qui sait quand.
Et à la fin donc du coup quand tout pète, toutes les bombes atomiques pètent. Et eh ben Stanley Kubrick il met cette chanson là en illustration sonore, voilà.
Donc c'est une chanson écrite par Ross Parker et la musique donc elle est faite par Huggy Charles donc interprétée notamment par Vera Lynn comme tu l'avais dit tout à l'heure et donc elle était née en 39 et elle est morte en juin 2020 à 103 ans. Frank Sinatra il a repris cette chanson ainsi que Johnny Cash, Rod Stewart, John Lee Hooker, The Birds, enfin plein, pas mal de monde finalement ont repris cette sublime chanson. Et ce que je trouve amusant, c'est que en 2005, la mezzo-soprano galloise Catherine Jenkins a repris donc cette chanson avec elle à Londres à l'occasion du 60e anniversaire de la capitulation allemande. Voilà. Et donc, pour toujours prolonger l'histoire donc de la chanteuse, la chanson Vera du groupe Pink Floyd, bah donc est inspirée donc de elle. Et on peut entendre aussi cette chanson dans Casablanca, que je n'ai toujours pas vue. Et il y a cette chanson là aussi, We'll Meet Again, dans Hellboy.
Ok. Allez, on va se faire un petit extrait.
Un automatique calibre 45, deux boîtes de cartouches, quatre rations concentrées de secours pour un jour,
une pharmacie contenant antibiotiques, morphine, pilules vitaminées, pilules stimulantes,
pilules somnifères, pilules tranquillisantes, un manuel miniature combiné de conversations russes et de la Bible, $100 en roubles, $100 en or, 9 paquets de chewing-gum,
un sachet de préservatifs, 3 paires de bas nylons, 3 bâtons de rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on pourrait pas se payer comme week-end à Dallas avec tous ces trucs-là?
Ouais, là on l'entend bien qui dit Dallas. Qu'est-ce qu'on a après pour finir et revenir au film? Stanley Kubrick nourrit avec ce film un propos qui lui semble cher, c'est-à-dire la dénonciation de l'incompétence des politiciens de tous bords, hein, l'absurdité criminelle des projets et des réalisations des complexes militaro-industriels. Donc il a été très minutieux pour réaliser ce film, hein, parce qu'il a lu près de 50 ouvrages sur le nucléaire et la guerre froide pour préparer le film. Dans les décors aussi, y a du lourd parce qu'il y a pas plus de 16 km, il y a plus même de 16 km de câbles électriques qui furent nécessaires pour faire fonctionner le gigantesque écran sur le plano de
salle de guerre.
Ouais, de la War Room. Et on a aussi d'autres petites anecdotes que je crois que alors que l'équipe technique filmait des plans aériens au-dessus du Groenland, hein, elle filma par erreur une base secrète américaine Et donc elle fut forcée à atterrir et tous les techniciens furent suspectés d'être des agents soviétiques.
Ah, comme c'était en pleine guerre froide, ça devait être chaud hein, quand même.
Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu veux nous raconter après le succès de Lolita ?
Alors oui, grâce à la performance de Peter Sellers, donc la société de production accepta donc de financer Docteur Follamour, à condition que le comédien britannique joue quatre personnages, en plus d'incarner donc le capitaine Mandrake, le président des États-Unis et le Docteur Follamour, il aurait dû faire King Kong, mais comme il avait du mal à se familiariser avec l'accent texan, donc bah ça n'aurait pas été top quoi avec Peter Sellers. Et Stanley Kubrick, lui, avait pensé à le remplacer par John Wayne, mais John Wayne ne répondait jamais, donc bah, du coup bah, c'est Slim Pickers qui a eu le rôle. Mais on se plaint pas parce que Peter Sellers, il a quand même eu $1 million pour le film. Hein.
Ouais. Allez, on va s'écouter un dernier extrait.
Mais c'est extravagant, Follamour, mais comment est-ce que ça peut fonctionner automatiquement?
Eh bien, c'est une simplicité parfaitement infantile. Si en vue, c'est le mot, s'est contenté d'enfouir les bombes, il n'y a aucune limite à leur taille. Une fois enterrées, elles sont connectées à un gigantesque complexe d'ordinateurs. Alors, un ensemble de conditions définies et de circonstances précises dans lesquelles les bombes doivent exploser est programmé et stocké dans une mémoire électronique. Une seule ruban peut retenir toutes les informations.
Qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? En tout cas, c'est pas un nom allemand.
Il a changé de nom quand il est venu en Amérique. Avant, il s'appelait Mercury Clip.
Mais il y a une chose qui m'échappe, monsieur.
En tout cas, pour moi, c'est toujours un fric.
C'est que tout le principe de la machine infernale n'a aucun sens.
Si on ne le dit à personne, pourquoi l'avez-vous gardé secrète, hein?
On devait en faire l'annonce lundi prochain au congrès du parti. Vous savez que notre président aime la surprise.
Et voilà pour le dernier extrait. D'ailleurs, on peut reconnaître que c'est Roger Carrel hein, qui double Peter Sellers. Roger Carrel hein, qui nous a quittés il y a un petit mois.
Malheureusement.
Voilà, sinon, bah, on a quelques distinctions. On a le British Academy Film Award du meilleur film et du meilleur film britannique en 65. Et on a l'Oscar du cinéma en 64. 4 nominations dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur pour Peter Sellers. Bon, c'est des nominations, il n'a pas eu les, il n'y a pas eu les prix.
Ouais.
Et puis sinon, ce film-là, il a eu pas mal d'impact sur d'autres films. Dans quoi on peut retrouver
Ça a fait un impact sur Armageddon. Donc de Michael Bay, le film est de 98, hein, bien sûr. Donc on peut voir le clin d'œil de Stanley Kubrick dans l'une des scènes sur l'astéroïde. Le personnage loufoque surnommé Carotte, donc fait Steve Buscemi, se met à faire du rodéo sur une ogive nucléaire, comme le commandant Kiji. Enfin, King Kong, quoi. Donc ça fait quand même un clin d'œil pas trop mal.
Ouais, et puis aussi on raconte que bah, lorsqu'il entra à la Maison Blanche en 80, Ronald Reagan, il a demandé où était la salle de guerre. Il a fallu lui expliquer que, ben, en fait, cette salle était une pure invention de Kubrick.
Donc, ça n'existe pas, quoi. Et donc, depuis 1983, donc, à l'annonce de la destruction d'un Boeing sud-coréen par un chasseur soviétique, il y avait 269 passagers et membres d'équipage, le quotidien français Libération, craignant une escalade de la tension, titra ça « Une camarade de Follamour ». Quand des bus 88, on apprit qu'un croiseur américain venait d'abattre un Airbus iranien, il transforma l'intitulé en Citizen Follamour.
Bah sinon après on va dire un petit peu comme on a ressenti et trouvé ce film. Blood, vas-y, je te laisse commencer.
Bah donc c'était déjà la première fois que je voyais ce film, je m'attendais à un truc bien délire. Dès le début du film, quand le général qui pète un câble déclenchait le plan R comme Robert, là, j'ai bien rigolé. Je me suis dit, ça y est, ça va être la grosse rigolade. Et puis bah après, finalement, malheureusement, non. Ça fait une ambiance de guerre froide, quoi. J'aurais aimé que ça soit une comédie, quoi. Un peu comme Top Secret, même si ça n'a rien à voir. Mais Je me suis presque un peu ennuyé à regarder le film.
Ouais, en fait, t'aurais voulu que ce soit plus délirant, quoi, encore.
Ouais. Du fait que c'est avec Peter Sellers joue super bien les trois rôles. Et heureusement, je pense que c'est ça qui relève le film. Ça aurait été avec un autre fille, avec un autre acteur, je pense que je sais même pas si j'aurais regardé le film. D'ailleurs, pardon pour ceux qui aiment ce film-là, mais je le regarderai pas une deuxième fois.
Ouais, moi je compléterais par dire que moi aussi c'était la première fois que je le voyais. Je dirais qu'il faut le voir une deuxième fois pour bien prendre comprendre tout le sens du film. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs complètement au niveau du dialogue. C'est sûr que si on recherche des trucs visuels, y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'était loupé. Mais au niveau des dialogues, y a quelques trucs. Hein. Par exemple, quand je sais pas, il dit qu'il faut confisquer tous les postes. Quand dans la trousse justement de survie, y a des barésilles. Y a plein de trucs comme ça. Le personnage du docteur Folamour, bon voilà, complètement barré. Les mimiques du général aussi, Turk Jackson, il est bourré de mimiques. Ça aussi, c'est...
Ah, tu parles de celui avec son chewing-gum.
Ouais.
Ouais, ouais, lui, il est trop délire avec son chewing-gum quand il propose à un autre.
Puis même, il fait toujours des avec sa bouche, avec son front, ses yeux.
Ouais.
Il fait toujours des trucs délirants. Alors, c'est vrai qu'après, au début, hein, ça se passe dans la base militaire, mais après c'est vrai que ça se joue majoritairement entre et dans l'avion et dans la war room. Donc c'est vrai qu'après c'est presque en huis clos. Moi j'ai trouvé aussi des fois qu'il y avait quelques longueurs.
Après, c'est pas
ça
si
parle
marrant
beaucoup.
Que ça, quand c'est les Américains qui se tirent sur eux, quoi.
Ouais, il y a ça. Il y a aussi, à un moment donné, quand le président américain, il contacte le président russe et qu'il se parle, oui, je vous entends très bien.
Oh, ça va, on se fait une bouffe, ouais. C'est presque ça, comme s'il appelait son frère. Ou...
Mais après, il y a un message aussi derrière le film. C'était aussi pour dénoncer ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'était que on voit que derrière, c'était pour dire qu'il suffit qu'un mec pète un plomb pour qu'il appuie sur le bouton et fasse péter les bombes nucléaires, quoi. Parce que à l'époque, en pleine guerre froide, hein, les missiles américains étaient pointés sur l'URSS. Jusqu'à Cuba même, ils pointaient des missiles sur les États-Unis. Donc voilà.
C'est osé d'avoir fait le film pendant cette période-là.
Ouais, mais c'était pour dire qu'il suffit qu'un gars pète un plomb et voilà. Et au final, on voit bien que le B-52 qui a évité de justesse les tirs russes s'en sort. Et arrive à faire péter un objectif, même si c'est pas le même. Et comme derrière, les Russes, eux, ils ont une technologie d'une machine qui, dès qu'il y a une explosion nucléaire sur son sol, et ben la machine, elle attaque. C'est ça. À la fin, elle balance tous les missiles, voilà. Et ils vont même, Folamour va même jusqu'à l'idée de vivre avec...
plus de 100 ans.
Ouais, plus de 100 ans, sous terre, à 300 ou 400 mètres sous terre.
Des filles pour un mec, par exemple.
Ouais, c'est ça, il veut mettre des filles qui sont qui ont tous les atouts pour faire en sorte perpétuer le
L'humanité,
quoi. Voilà. Mais après, on sait pas si dans le film ils réussissent à le faire, parce que vu que tout pète, on sait pas si la War Room va résister aux bombes nucléaires. Et puis déjà après, c'est trop tard un petit peu, parce que la population, comme ils voulaient aller chercher des gens de la population, ils vont être un peu mort par les bombes. Donc bon, mais c'est vrai qu'après, même jusqu'à la fin, quoi, le docteur Follamour qui est un peu handicapé, hein, on voit qu'il a une prothèse qui lui joue des tours parce que des fois ça veut la moitié l'étrangler. Enfin bref, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec. Et il peut même pas marcher. Et à un moment donné, il se lève et il dit « Ah, je marche !» Et puis là, c'est les dernières images, ça pète. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs marrants, des trucs moins, mais je dirais qu'il faut le voir une deuxième fois, peut-être parce que il y a peut-être plus de double sens qu'on ne l'imagine. Moi, je le regarderai quand même une seconde fois. Après, il y a le côté noir et blanc, c'est vrai que ça fait un petit clin d'œil. Voilà, bon, mais je pense que c'est plus un film pour dénoncer la guerre, dénoncer les bombes nucléaires, dénoncer les politiques qui magouillent avec tout ça, et puis aussi les complexes industriels qui travaillent pour les militaires. Il y avait un message derrière. Bah voilà, bah on a tout dit. Bah écoute, on va boucler l'épisode avec le dernier extrait, et puis bah...
Ah, nous, une belle musique
on va dire
qui
qu'on
remonte...
Va...
Heureusement qu'il y a cette chanson-là à la fin.
Ouais, on va dire qu'on se retrouve ensemble dans l'épisode 25. D'ici un petit mois.
Ouais. Pas de souci.
Allez, je fais péter le dernier extrait. On vous dit à tous à bientôt. On vous embrasse.
À bientôt.
Ciao, bye.
Et bon film.
We'll meet again. I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go,